aux relations algéro-marocaines avec Malim Abdou.
L'Algérie algérienne, c'est-à-dire une Algérie qui appartienne aux Algériens.
L'armée vous parle. Vous avez devant vous les généraux Chal, Jouot et Zemel.
أول فيفري 79 عودة آية الله الخميني إلى إيران
أيها الإخوة والأخوات وقع الليلة البارحة اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين إيران والعراق
C'est le seul pays qui pourrait devenir un pays sophistiqué dans le continent de l'Asie, à part le Japon. C'est ou bien l'Iran, indépendant et moderne et progressiste, ou rien.
إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها وهي في نفس الوقت معركة حياة أو موت.
ناصر Bourguiba, Nehru, Monseigneur Makarios, le Négus Haïlé Sélassié sont là.
Bonsoir, l'Histoire en Marche est une émission réalisée par Djelil Lakhdar, coordonnée par Sami Haali. Démocratie. Islamisme, amazirité, terrorisme, autant d'étapes à travers lesquelles évoluent nos voisins de l'Ouest, les Marocains. Des expériences que nous connaissons, nous de notre côté, fort bien, car nous les avions vécues et continuons à les vivre. Des similitudes certaines, mais rarement partagées. Et pour reprendre l'expression de l'un de nos confrères, je dirais « jamais partagées, hors de certains cercles ». Comprendrions-nous mieux les choses si nous les décortiquions point par point, ou si nous décortiquions point par point les phases traversées par ce pays du Maghreb? Pourrions-nous trouver des réponses à nos propres interrogations? Mais surtout, dans quelle mesure l'expérience algérienne a-t-elle servi? Autant de similitudes dans nos vies politiques respectives et pourtant il s'agit bien d'introuvables réconciliations. Cette problématique nous pousse à remonter dans l'histoire pour connaître les facteurs qui ont empêché la normalisation des relations entre nos deux pays. Quelles ont été les tentatives et les tractations menées de part et d'autre? Bref, un sujet à double volet qui nous amène à devoir découvrir le passé pour mieux comprendre le présent. C'est ainsi que la boucle sera bouclée, car n'est-ce pas ce vécu politique marocain actuel qui va nous propulser plusieurs décennies en arrière?
Le gouvernement algérien, officiellement, et à moi-même, le président Boumdiane, me l'a dit, me l'a déclaré. C'est un homme qui, jusqu'ici, je dois le dire, a toujours tenu ses engagements. Il m'a dit, l'Algérie n'a aucune prétention sur le
sable. Il
m'a dit, prévenez-moi tout simplement 48 heures si jamais il y avait, qu'à Dieu ne plaise, un incident militaire, prévenez-moi 48 heures à l'avance que je puisse arriver à vos côtés.
Exactement.
S'il y a un pays en Afrique qui a fait de grands sacrifices pour la normalisation de ses rapports avec l'Algérie et avec la Mauritanie, c'est bien le Maroc. Eh bien, je ne tiens plus à ce que ces efforts soient vains, à ce que tout cela s'écroule à cause du Sahara. Nous reprenons notre liberté d'action pour ce qui est de la libération de ce pays. Mais là encore aussi, je pense que nous pouvons procéder par bond et par palier et ne pas chercher à régler l'impossible, mais à concrétiser le possible étape par étape et pas par pas.
تبقى دائما على استعداد اليوم غدا بعد غد للمساهمة بالطرق السلمية في إيجاد كل مشكل أو في إيجاد الحلول لكل مشكل يطرأ في منطقتنا.
Monsieur Mahjou Bahardan, merci de nous recevoir.
Nous allons commencer l'interview de façon différente de ce que j'ai prévu. Tout à l'heure, on discutait, vous avez dit, le principal point de votre mouvement est qu'il n'y ait plus de divergence entre le Maroc et l'Algérie. Est-ce que l'on pourrait en savoir plus ?
On pourrait en savoir plus ?
Oui.
Posez la question.
Je la repose ?
Posez la question.
Je pose la question. Quels sont les points de divergence entre le Maroc et l'Algérie ?
Si les Algériens ne le connaissent pas, c'est alors qu'ils ne sont pas sur cette terre. À l'indépendance, De Gaulle a posé à Mohamed V la question de réglons les problèmes de frontières. Mohamed V a répondu, jamais je ne tirerai dans le dos à l'Algérie. Nous, on aurait pu prendre nos frontières à l'époque, mais on ne les a pas prises. Quand j'ai été invité pendant cette histoire-là, justement, par Boumediene, nous en avons parlé. Et Boumediene, c'est dommage qu'il soit parti vite. M'a dit, mais maintenant, on ne peut plus faire des choses comme on devrait les faire, parce que nous sommes encore à nous commençons, donc il y a à faire, nous allons nous entendre sur le plan de Tindouf, sur le plan de l'exploitation, l'affaire de Tindouf, voilà, tout ce qu'on pourrait trouver sur le plan des frontières, parce qu'à l'époque, il y avait les confins algéro-marocains, il n'y avait pas de frontières du tout. Alors, je suis venu transmettre à Sa Majesté Hassan II ce que m'avait dit Boumediene.
فإننا نعتقد بأننا سنلتقي غدا أو بعد غد أو في كذا من سنة مع الشعب المغربي سنلتقي سيأتي اليوم الذي نلتقي فيه مع الشعب المغربي فلهذا ما نسبش أبدا المستقبل ندافع على حدود بلادنا فقط ندافع على حدود بلادنا فقط ونقولوها بكلمات بسيطة.
Pour rester dans cette même ligne, Monsieur Abdelhamid Mehri, quelle était la démarche du président Houari Boumediene et quelles ont été les principales rencontres auxquelles il a participé?
Pour Boumediene, le frère Boumediene, rahimahullah, il a participé à une, au moins, rencontre très importante entre dirigeants algériens et marocains sur le problème des frontières en août 1958. J'étais au Maroc avec le frère Farhat Abbas et nous avons été reçus par le roi Mohamed V qui nous a posé carrément le problème de frontières. Il nous a dit, ma position à l'égard de la révolution algérienne et ma sympathie, ma solidarité totale, mais en tant que chef d'État, je suis obligé de m'occuper de ce problème des frontières et je vous demande, si c'est possible, de constituer en quelque sorte une délégation pour discuter avec une délégation marocaine présidée par le prince héritier qui était en ce moment-là, Moulay Hassan Zali. Avant cette réunion, il y a eu des événements regrettables aux frontières entre les éléments de la résistance, de l'armée marocaine et de l'armée algérienne. Et je me souviens, nous avons posé même la possibilité de régir un protocole. Du côté marocain, il y avait absolument toutes les forces politiques. Tout le monde était représenté. Je me souviens, il y avait Mourhoum Al Al-Fassi, Mahdi Boubarka, Mahjoub Sadiq, Fakir Basri, enfin tout le monde était représenté du côté marocain. Bon, nous avons essayé d'arriver à un accord reliant un règlement définitif du problème des frontières. Après l'indépendance, et nous avons dit parce que nous ne reconnaissons pas la souveraineté française de l'Algérie, et le problème de frontières s'est réglé entre les deux pays intéressés, l'Algérie et le Maroc, ce que le frère marocain ont accepté. Nous avons également souligné l'importance de ces régions pour l'alimentation de la révolution algérienne, et notamment l'acheminement des armes. Malheureusement, les incidents ont continué un petit peu d'émailler et nous avons été obligés de rompre la réunion. Et nous avons mené ces discussions avec, je présidais la délégation, et avec ma frère Houari Boumedine.
Fain al-Jazair تبقى دائما على استعداد اليوم غدا بعد غد للمساهمة للمساهمة بالطرق السلمية في إيجاد كل مشكل أو في إيجاد الحلول لكل مشكل يطرأ في منطقتنا.
Avant d'aller plus loin dans les détails, M. Abdelhamid Mehri, je vous propose d'écouter ce que nous rajoute M. Mahjoub Hardan. Écoutez-le.
Et il y a eu une sorte de contrat, une sorte d'engagement avec le GPRA. Il y a eu un contrat signé entre l'Algérie et le Maroc pour l'histoire de Jbilat, pour l'histoire de Tindouf et tout ça. Mais tout ça encore a été complètement oublié. Et quand le Polisario a été créé, ben c'est l'Algérie qui a prêté main forte. Et c'est l'Algérie qui continue toujours à nous poser des problèmes. Alors qu'à l'époque, Boumediene lui-même nous a dit, si vous voulez absolument faire libérer les territoires sous domination espagnole, encore comme Boumediene l'était, qu'ils étaient prêts à combattre. Il y avait votre autre président, que j'aime beaucoup, mais dont j'ai oublié le nom.
Ben Bella, oui.
Ben Bella, une fois même en Mauritanie, a quitté la réunion parce qu'on avait parlé des frontières alors qu'il voulait réellement, jusqu'à un certain moment, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Monsieur Ahmed Bebella, est-ce que l'on pourrait répondre à l'interrogation de Monsieur Mahjoub Hardan et dire ce qui s'est concrètement passé?
On va dire ce qui s'est passé. Le roi demande à nous voir et je vais le voir à Madrid. Il me dit, Ahmed, voilà, on propose l'indépendance. Oh, c'est en 56, oui. Lui, le roi était avec sa famille exilé à Madagascar. Ils ont d'abord pensé à le faire venir en France comme ça pour négocier, puis les événements sont précipités dans la zone Rifaine avec un état-major dans lequel il y avait Abdelkrim Khatib qui vit encore, il peut vous
oui,
le dire
oui. Hein,
dans lequel il y avait Abbas existait mais qu'ils ont tué, qui n'existe plus parce que lui a estimé que c'était une trahison que nous lâcher. Il a été liquidé à Fès.
Il a été liquidé par qui, pour reprendre votre expression?
Je préfère ne pas dire par qui, etc. Vous savez, mais pas par nous en tout cas, puisque c'était notre ami que lui disait que c'est une trahison. Moi, je continue à me battre en Algérie avec les miens. Le roi Mohamed V s'est aperçu qu'il y avait un accord qui existait, qui n'était pas signé, mais qui stipulait qu'on n'accepterait pas de solution partielle, ni en Algérie, ni en Tunisie, ni au Maroc. C'est ce qui s'est produit. On a été lâchés. Le Mohamed V nous a dit, voilà, on propose l'indépendance, je vais la refuser. Parce que voilà, au lieu de proposer à Mohamed V ce qu'ils avaient proposé en Tunisie, qui était une indépendance comme ça, enfin tout là, truqué de façade, là-bas, on lui a donné l'indépendance. Il m'a dit, on me donne l'indépendance. Pourquoi ne pas l'accepter? Et je m'engage à donner ceci, 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 ceci. Je vous dis, j'avais une liste en papier avec 25 décisions. Décidées avec Oudiaf, avec Mahsas, avec Ben Mehidi et moi au Caire. J'avais ce papier, mais quand il m'a proposé ce qu'il était, je ne lui ai pas montré mon papier. Je vous dis franchement, il me donnait plus. Il nous donnait plus. Donc, il s'est tenu à ça, Mohamed V. Il nous a donné tout ce qu'il nous a promis et bien plus.
Il n'y avait pas de problème de frontière, par exemple, avec Mohamed Khamis?
Jamais. Non. Là, il avait posé le problème. C'est pas lui, c'est l'Istiqlal qui avait posé durant la lutte armée, parce qu'ils ont été indépendants avant nous, en 56. Ah non, il a fallu attendre 62, 6 ans après.
Monsieur le Président, je vous propose d'écouter l'une de vos déclarations faites le 15 octobre de l'année 1963. Écoutez.
أو اللي فيه نية باش هما يهجموا ياخذوا نصيب من هذه الأرض اللي راهم يطلبوها واللي الدستور يقضي بأن لازم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يدافع على سلامة البلاد.
Monsieur Abbas El Fassi, vous êtes secrétaire général du parti Al-Istiqlal. Doit-on aujourd'hui parler encore de problèmes de frontières entre le Maroc et l'Algérie?
Pour Sa Majesté, pour le peuple marocain et plus particulièrement pour le parti Istiqlal, il n'y a plus de litige concernant les frontières avec l'Algérie. C'est net, c'est clair. et je tiens à le souligner. De temps en temps, une presse, une certaine presse, surtout française, veut faire renaître ce dossier. Ce dossier n'existe plus pour nous. Pour nous, il n'y aura pas de frontières lorsque nous ferons le Maghreb arabe. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il n'y aura pas de frontières. Il n'y aura plus de, j'espère. Pas aujourd'hui, nous irons par étapes, mais l'aboutissement, c'est la suppression des frontières. Mais pour le moment, tant qu'il y a des frontières, nous n'avons aucun problème au sujet de Tindouf. Vous voulez parler de Tindouf?
Oui.
Bon, c'est clair.
C'est un problème qui a été enterré en 1992, lors des accords entre...
Sur le plan juridique.
Oui.
Nous estimons que si le colonialisme a toujours voulu laisser des problèmes aux pays libérés, nous ne voulons pas tomber dans ce siège. C'est une affaire terminée.
L'Israël pourtant disait au départ que les frontières marocaines allaient jusqu'à Mostaganem, donc ça c'est de l'histoire ancienne.
Non, ça c'est... Il faut voir le contexte. Ça c'était une lutte contre la France. C'est une lutte contre la France. Et l'occupation française.
Oui.
Le colonisateur veut toujours laisser quelques bombes à retardement.
Oui.
Heureusement, ça n'a pas été une bombe entre nos deux pays, ni à retardement, ni une bombe tout court.
فرنسا من الأول يعني الحكومة الفرنسية من الأول كانت في هذه المعركة تعرفوا فرنسا عندها قواعد في دكر قواعد للدفاع عن من عن مصلحة من لصالح من
je partage cette analyse du frère Fassi quand ce problème commençait à poindre à l'horizon c'était vers les années 1957 donc pendant la guerre de libération de l'Algérie, j'étais plus jeune des hommes, moins expérimenté, j'étais convaincu que ce problème serait réglé vu les amitiés qui nous liaient justement toute une génération de nationalistes de part et d'autre. Et un correspondant anglais de la BBC qui m'interrogeait sur ce problème, qui voyait que j'étais optimiste, me disait « Monsieur Mehri, ces problèmes sont faits pour durer. » Et connaissait mieux l'aspect de ce problème situé dans le contexte de l'héritage colonial. Donc, c'est difficile de régler des problèmes de territoire entre États conçus et établis dans la logique des États nationalistes.
Et pourtant, c'est un problème qui a été réglé à la longue.
Oui, heureusement. Heureusement, parce que avant le règlement, je crois que ce qui a été fait, l'accord sur les frontières algéro-marocaines, prenait en considération un état de fait. Il y a un accord, il y a un différent frontalier, et prendre aussi la décision de le dépasser en quelque sorte par une vision d'intégration des intérêts communs.
Monsieur Abdelhamid Mehri, vous restez s'il vous plaît avec nous. Nous allons tenter de savoir quel est le point de vue du président Ahmed Ben Bella à ce propos.
Je dois, pour la vérité, dire ceci. C'est De Gaulle lui-même qui a proposé aux Marocains de discuter des problèmes de frontières pour nous gêner lorsqu'il a vu que la révolution ici. Et c'est les Marocains qui ont refusé. C'est le roi Mohamed V qui a refusé. Avec la convention, avec les deux parties, de revoir ce dossier au lendemain de l'indépendance. Mais, comme je vous le disais, ce problème ayant été débattu à l'OUI à laquelle nous appartenons tous les deux, par une décision commune, de ne pas ouvrir ce dossier. Parce que ce dossier existe dans chaque pays africain. Et c'était comme une grenade, une dernière bombe qui allait faire sauter toute l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas un pays africain qui n'a pas un problème de frontière avec le voisin, n'est-ce pas? Et donc c'est fort de cela que personnellement je n'ai pas voulu qu'on ouvre ce dossier.
كأنه مستعد على الهجوم على هذه البلاد إنما هذا الهجوم ما نخافوش منه لأن هذه البلاد دفعت على كرامتها وعلى سلامتها ومستعدة باش تدفع مرة ثانية مستعدة باش تدفع على هذه البلاد مستعدة بالخصوص باش تدفع على المكاسب نتاع الثورة
Monsieur Mahjoub Hardan, votre parti conteste toujours le tracé frontalier algéro-marocain.
Comme j'ai dit chaque fois, vous-même, je vous demanderai de voir la carte aujourd'hui. La carte de l'Algérie. Il y a tellement de terres que, comme j'ai toujours dit, l'Algérie, sur le plan de la carte, il a l'air d'une femme enceinte. Et tout ça, c'est des terres marocaines. Les Algériens, quand ils, pour le marché de l'indépendance, Khatib et moi-même, nous avons été non seulement les frères, mais nous avons été la base ici du combat algérien, sur tous les plans. Sur tous les plans. Tous vos hommes, tous vos résistants de l'époque, ceux qui pouvaient au moins quitter l'Algérie, ont été chez nous à la maison. Tout l'armement de l'armée de la libération marocaine est passé dans ma maison pour passer en Algérie.
Monsieur le Président Bembella, est-il vrai que les Marocains nous livraient des camions d'armes lors de la lutte de libération nationale ?
Pas du tout, ils nous ont pas livré un, c'est moi qui leur livrais, parce que c'est moi qui apportais les armes. Il n'y a pas eu une arme qui soit arrivée au Maroc qui ne soit pas passée par l'Égypte. C'est moi qui m'occupais de ça. C'est moi. L'argent et les armes, c'était l'Algérie. Parce que l'Algérie était beaucoup plus organisée. Elle avait l'os, elle avait l'organisation secrète. Elle avait une armée. Nous avions 5000 soldats. Là. Voilà. Et nous avons commencé à attaquer le 1er novembre avec une armée de libération nationale. Eux n'avaient pas d'armée de libération nationale. C'est lorsque des difficultés sont intervenues entre le système qu'ils avaient envisagé provisoirement en Tunisie avec Bourguiba et que les Français ne voulant pas aller plus loin, finalement, ont arrêté Bourguiba et le fameux ministre Chenouk qu'ils avaient constitué. Et lorsque le roi Mohamed V est arrêté et qu'il est remplacé par Bouarfa, et que le peuple commence à agir, mais le peuple... Oui, c'est des Istiklaliens qui n'avaient pas une structure, n'avaient pas une armée. Et c'est le peuple qui a répondu aussi bien en Tunisie, là, par des actes individuels, par des attentats, le FIDA, comme on dit. Pour vraiment en imposer la responsabilité d'une façon arbitraire, là, je vous dis comment ça s'est passé, et je le dis, je vous jure, je n'ajoute pas une virgule à la réalité. C'est nous qui avons organisé l'armée de libération marocaine. Pendant 6 mois, nous les avons entraînés au RIF, c'est Ben Mehidi, c'est Boudiaf, c'est moi.
Chaîne 3 présente L'Histoire en marche. L'Histoire en marche, vue d'un témoin du siècle.
Les témoins de cette première partie sont M. Mahjoub Hardan, qui était ministre de la Défense et qui est actuellement président du mouvement populaire marocain, M. Abdelhamid Mehri, ancien ambassadeur d'Algérie au Maroc, M. Ahmed Bembella, président de la République algérienne de 1962 à 1965, M. Abbas El Fessi, secrétaire général du parti El Istiklal et plusieurs fois ministre. Au nom d'un grand Maroc qui, pour certains, incluait la Mauritanie, les partis de droite marocains, notamment l'Istiklal, revendiquaient une partie importante de l'Algérie, allant jusqu'à Mestrem au nord et à Béchar au sud. Les partis de gauche, plus sensibles aux réformes sociales et économiques, situaient les contestations frontalières dans la perspective de l'unité maghrébine. Voici Driss El Basri, qui lui remonte dans le temps et évoque certains faits. Écoutez.
Les deux hommes, aussi bien Feu Sa Majesté Hassan II que Son Excellence le Président de la République algérienne, appartiennent à la même génération. Cette génération se distinguait par deux caractères différents, mais qui vont toujours vers le même but et qui cheminent vers la même finalité. Finalité nationale d'abord, et finalité inter-maghrébine par la suite. Deux dirigeants qui sont appelés à se connaître, qui ont été à travers l'histoire, ils se sont connus, ils se sont fréquentés. Et bien sûr, Hassan II nous racontait que Dieu est son âme, qu'il donnait des armes lui-même, sa propre main, aux dirigeants algériens, dont Bouteflika, qui était... Alors là, Bouteflika n'oublie jamais ça. C'est pas par reconnaissance. Non. C'est par partage de responsabilité, partage éthique. partage de finalité, ce qui est important. Les armes, on peut les acheter, mais c'est le fait de les recevoir des mains d'un prince futur roi, et lui qui dit que l'histoire va en faire le président de la République, l'un des plus brillants aussi, parce que Hassan II était très brillant, et Bouteflika était brillant, et toujours brillant.
De même que je compte sur le président de la future session, qui est un maghrébin, qui est M. Bouteflika, ministre des Affaires étrangères du gouvernement algérien, qui voudra lui le premier sortir son pays de ce choix qu'il a, dois-je soutenir la Mauritanie, dois-je soutenir le Maroc. C'est un petit peu le cas de beaucoup de pays, des pays arabes, des pays africains, des pays européens, de la CE, des grandes puissances. Eh bien, qu'il nous renvoie devant la Cour internationale de justice.
Monsieur Abdelhamid Mehri, nous venons d'écouter une déclaration du monarque Hassan II. Alors, qu'est-ce qui a fait que les relations algéro-marocaines ne se normalisent jamais? Sur quoi chopait-elle principalement? Était-ce que des problèmes à caractère politique, par exemple?
Moi, je crois qu'en matière de relations entre les deux pays, il faut poser les problèmes politiques. Je crois que nous avons hérité des problèmes de la colonisation que nous avons difficilement réussi à surmonter. Il en reste encore. Ces problèmes ont connu des difficultés. Des difficultés à partir du moment où la Tunisie et le Maroc ont accédé à l'indépendance. Mmh. En ce moment-là, il y avait deux logiques. Une logique d'État naissant, qui ont leur exigence en matière de sécurité, en matière d'exercice de certains attributs de cette souveraineté, en matière de liquidation des séquelles du colonialisme, et l'Algérie qui n'a été indépendante que quelques années après, où la logique qui dominait était une logique de révolution, qui passe outre des considérations de logique de parti, d'une gestion étroitement nationaliste. Par exemple, le problème des frontières, nous étions deux, mais il y avait la France. Donc, avec qui faut-il régler les problèmes des frontières? Avec l'Algérie qui n'existait pas en tant qu'État, ou avec la France qui était souveraine en Algérie, juridiquement parlant? Voilà le genre de difficultés auxquelles nous étions tous confrontés. Alors, pour gérer ces problèmes, ça n'a pas été facile. Parce que ça implique un nombre important de problèmes, problèmes de population, problèmes d'intérêt commun, problèmes de perspective d'avenir, et tous ces problèmes, on ne pouvait pas les régler entre un État qui commence à s'installer et qui commence à organiser en quelque sorte l'indépendance récente, et un mouvement révolutionnaire qui fait fi de pas mal d'aspects juridiques ou autres, parce qu'il y a une autre logique. Voilà le genre de problème auquel nous étions confrontés. Il me souvenait que le regretté Hassan II, qui était prince héritier à la veille de la conférence de Tanger, nous disait que pour nous, pour le Maroc, s'il n'y a pas d'accord sur l'exploitation commune des richesses de ces régions frontalières, il y a un problème de frontières. Mais s'il y a un accord pour faire un travail en commun, pour exploiter les richesses de ces régions en commun, le problème de frontières ne se pose pas. Et il a ajouté en ce moment-là que je m'intéresse peu à ceux qui établissent les cartes d'identité, les papiers de naissance et de décès, etc. Donc il avait une vision qui va dans le sens de l'intégration au Maroc. Et c'est Abdelaziz Bouteflika qui me parlait du projet de rencontre entre Algériens et Marocains, qui me demandait ce que je connaissais, ce qui me reste en mémoire de ce dossier des frontières algéro-marocaines. J'ai dit, c'est pas un problème de dossier, c'est un problème de politique. Et je crois qu'une phrase qui nous a été dite par le prince héritier du Maroc en 1957 peut constituer un élément important pour déboucher sur une solution. Et je crois que c'est la meilleure manière d'aborder ces problèmes. C'est-à-dire, on ne peut pas régler au XXe siècle, les relations entre pays aussi étroitement liées par la géographie, l'histoire et l'intérêt, en recourant aux normes classiques de tracé de frontières, si on n'a pas une vision d'intégration ou d'union entre ces pays.
Beaucoup pensent que le Maroc est très intéressé par les phosphates de cette région. Je leur dirais que le Maroc a commencé à revendiquer cette région bien avant que les phosphates n'aient été découverts, puisque la première fois où nous en avons parlé, en plus des documents de l'indépendance, c'était en 1957, lors des événements d'Ifni, alors que Sa Majesté Mohamed V, mon vénéré père, se trouvait en voyage officiel aux États-Unis. Et je me rappelle même que notre actuel ministre des Affaires étrangères, qui était à ce moment-là au cabinet du ministre des Affaires étrangères, avait été chargé de porter une note à M. Foster Dulles, dans laquelle nous faisions les plus expresses réserves concernant ce problème. Et je crois que si le State Department voulait faire des recherches, il retrouverait cette note dans laquelle nous faisions des réserves en 57 sur le Rio de Oro et sur Saqi al-Hamra.
Monsieur le Président, avant d'arriver en 62, vous étiez au Maroc, et puis par la suite, Hassan II trahit en fait une sorte de pacte. Par quoi expliquer ce revirement de situation ?
Moi, je ne veux pas parler de Hassan II pour d'autres choses, parce que j'ai parlé à Jazeera, je n'ai pas voulu aborder les problèmes concernant l'avion qui a été, rappelez-vous, l'avion dans lequel il y avait la direction de la révolution algérienne qui a été interceptée par des avions ici à Alger, etc. Je ne veux pas parler de ça.
Vous voulez insinuer qu'il y a une implication marocaine ?
Non, je ne dis rien du tout. Je préfère ne pas parler. Je n'ai pas voulu parler avec Jazeera, je ne vais pas parler maintenant de cela, parce que je veux assainir ces rapports. Je veux que nous créions une Afrique du Nord fraternelle. Je veux qu'on dépasse le problème des frontières. Je veux que l'Algérie soit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, voilà ce que je veux.
Vous pensez qu'un jour, le Maroc pourrait être l'Algérie, et l'Algérie le Maroc, et que tout sera assaini ?
Oui, ça, c'est notre rêve, c'est notre rêve. C'est celui de Bemberga, c'est celui de Youssefi qui existe toujours, c'est le mien. C'est celui de Boudiaf, c'était celui de Ben Mehdi, c'était celui de tous nos dirigeants, c'était celui de leur chef d'état-major qui est mort, je veux dire, dans des conditions un peu, etc. C'était celui d'Abdelkrim Khatib aussi. Jusqu'à présent, Abdelkrim Khatib, il œuvre pour la création, pour créer un espace nord-africain.
Alors, vous parlez de personnalités qui sont mortes dans des conditions assez obscures. Est-ce que ça a une relation avec l'assainissement de ces relations ?
Est-ce que ça...
Une relation. Est-ce que parce que ces personnalités ont voulu assainir les relations entre l'Algérie et le Maroc, elles sont mortes ?
Des gens ont été liquidés parce qu'ils estimaient qu'il fallait rester solidaire avec l'Algérie, tout simplement. Sont éliquidés. Mais enfin, nous ne devons pas rester prisonniers de ça. Le sort de l'avenir, c'est trop important pour que nous soyons... Pour que nos erreurs communes, tout le monde a fait des erreurs, nous soyons prisonniers de ces erreurs et que nous ne créions pas cet espace au moment où le monde crée cet espace.
Nous avons porté le contentieux de l'affaire de l'enlèvement de Ben Bella et ses compagnons dans l'avion. Mais il n'était ni de l'intérêt de la France, ni de l'intérêt du Maroc que l'un des deux soit condamné. On l'a porté pour pouvoir enjamber le problème et laisser l'Algérie aller vers son destin avec la France et laisser le Maroc aussi aller vers son destin avec la France. Mais dans un cas comme celui-là, les Nations Unies et la société internationale a tout intérêt à ce que la Cour internationale de justice dise le droit, car il ne s'agit pas d'un contentieux normal, ni d'un litige normal.
Monsieur Ali Haroun, lors du discours du monarque Hassan II, il a été notamment question du détournement de l'avion de Ben Bella. C'est un discours qui a été prononcé, je vous le rappelle, en 1974. Vous auriez quelque chose à rajouter à ce propos ?
Je vais vous raconter une histoire qui concerne l'Algérie. Vous savez qu'au moment où les 5 leaders algériens ont été kidnappés dans leur avion, le 22 octobre 1956. Mais vous savez pourquoi ils étaient dans cet avion ? On ne se pose jamais la question. Eh bien, ils étaient venus au Maroc pour voir Sa Majesté Mohamed V, et avec lui, ils devaient l'accompagner chez Bourguiba, et chez Bourguiba, ils devaient faire une déclaration commune maghrébine. Les Français à l'époque, d'après les informations qu'on nous a données, étaient d'accord sur une proposition à peu près similaire à celle que vous indiquez pour l'Algérie, c'est-à-dire une autonomie interne de l'Algérie, donc pendant 10 ans, de 56 à 66, avec évidemment un gouvernement algérien, un parlement élu au suffrage universel, qui aurait évidemment permis à la communauté pied-noire de l'époque d'avoir des députés en fonction de leur nombre, et un gouvernement qui contient tous les ministères, à l'exception justement du ministre de la Défense et du ministre des Affaires étrangères. Vous voyez que cette proposition avait été faite par les Français pour les Algériens. Bien sûr, l'histoire s'est arrêtée là. Elle s'est arrêtée avec le kidnapping de l'avion, mais on ne peut pas refaire l'histoire. Mais il est possible que cette proposition aurait peut-être changé tout à fait le cours de l'Algérie, le cours de l'histoire de l'Algérie. Ça ne veut pas dire que l'Algérie n'aurait pas été indépendante 10 ans plus tard.
Le gouvernement algérien, officiellement, et à moi-même, le président Boumdiane, me l'a déclaré. C'est un homme qui, jusqu'ici, je dois le dire, a toujours tenu ses engagements. Il m'a dit, l'Algérie n'a aucune prétention sur le Sahara.
فقد أمضينا معاهدة معاهدة أخوة وحسن جوار وتعاون بين الجزائر والمغرب.
Il m'a dit, demande, prévenez-moi tout simplement 48 heures si jamais il y avait, qu'à Dieu ne plaise, un incident militaire, prévenez-moi 48 heures à l'avance que je puisse arriver à vos côtés. Exact, textuel.
تاريخ يحكم علينا ولا يحكم ضد.
S'il y a un pays en Afrique qui a fait de grands sacrifices pour la normalisation de ses rapports avec l'Algérie et avec la Mauritanie, c'est bien le Maroc. Eh bien, je ne tiens pas à ce que ces efforts soient vains, à ce que tout cela s'écroule à cause du Sahara. Nous reprenons notre liberté d'action pour ce qui est de la libération de cette île.
Ça y est, le jour où nous nous rencontrons avec le peuple maghrébin.
Mais là encore aussi, je pense que nous pouvons procéder par bon et par palier et ne pas chercher à régler l'impossible, mais à concrétiser le possible étape par étape et pas par pas.
فإن الجزائر تبقى دائما على استعداد اليوم غدا بعد غد للمساهمة بالطرق السلمية في إيجاد كل مشكل أو في إيجاد الحلول لكل مشكل يطرأ في منطقتنا.
Ce document historique comptait des déclarations du monarque marocain Hassan II et du président algérien Houari Boumedine. Pour contrer la pression de la gauche dans les années 60, la monarchie marocaine a revendiqué dans un premier temps des territoires algériens, guerre des sables, rappelez-vous, de 1963, puis s'est emparée du Sahara occidental en novembre 1975, tout en continuant à contester le tracé frontalier qui ne sera ratifié qu'en juin 1992, à l'issue d'une entrevue entre le roi Hassan II et le président Mohamed Boudiaf. La monarchie aurait utilisé cette arme nationaliste contre la principale force d'opposition, l'Union nationale des forces populaires, créée et dirigée par Mehdi Ben Barka. Aujourd'hui, Dr Khatib revient, qui est le président du PJD, revient sur les alliances existantes entre l'Algérie et le parti de gauche marocain. Écoutez.
Nous avons eu affaire à des partis soi-disant de gauche qui n'étaient pas pour la monarchie, qui ont essayé de créer des coups d'État pour essayer de faire choir la monarchie, surtout depuis l'autorisation de feu Hassan II. Malheureusement, je suis obligé de dire que nos voisins, les Algériens, ont beaucoup aidé cette tendance. Et j'ai fait le reproche à mon ami, mon frère, Ahmed Ben Bella, quand il était président de la République, pour l'aide matérielle qu'il avait apportée à ce parti de gauche, qui existe encore,
oui,
qui semble avoir fait son mea culpa et avoir compris que seule la monarchie était le régime susceptible de diriger ce pays dans la bonne.
Monsieur le Président, Dr Khatib explique que vous auriez hébergé, quand vous étiez président, des opposants marocains. Alors en quoi est-ce que cette façon d'agir a envenimé les relations algéro-marocaines ?
Étant donné les rapports que nous avions durant la lutte de libération, il s'est trouvé quelque chose. C'est que ceux qui sont battus chez nous, ce sont ceux-là qui ont pris le pouvoir. Mais pas les Marocains. Les Marocains continuent d'avoir, toujours les mêmes problèmes qu'ils avaient avant. Ceux qui avaient été battus, ceux qui étaient avec nous, etc. Les uns ont été tués, les autres écartés. Mais les autres sont devenus des opposants. Y compris, par exemple, Youssefi, il était là. Mais tous étaient là. Oui. Hassan Larj était... Bounaïl était là, l'Araki était là, ils étaient tous là. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est des gens qui mangeaient avec moi, on mangeait ensemble, puis voilà. On devient indépendant, ils sont dans l'opposition, ils sont traqués, ils sont battus, ils viennent demander de les accueillir. Je ne les ai pas rejetés, ils sont restés chez ici. Ils ont fait de l'opposition ici, je les ai aidés. Parce qu'ils ont mangé avec eux. C'est des gens qui étaient avec moi, on mangeait ensemble, on travaillait ensemble. C'est moi qui m'occupais des problèmes financiers, qui m'occupais des problèmes d'armement et du reste, sincèrement. C'est moi qui ai un peu dirigé tout ça. Et voilà qu'ils viennent ici, ils sont opposants, je vais les jeter dehors, je les ai reçus. Et je les ai aidés, je dis ça sincèrement, je les ai aidés. C'est des frères qui se sont battus à mes côtés, j'ai mangé avec eux, je dormais avec eux. Je deviens président de la République et voilà, donc je ne les connais plus.
Est-ce que vous avez été reproché par le roi Hassan ?
Nous avons un régime qui ne répond pas à nous, etc. etc. Aide-nous. Ben, je les ai aidés, oui, je les ai aidés. Donc, c'est ça aussi qui est un peu empoisonné dans le rapport avec Hassan. Il faut dire aussi, n'est-ce pas ?
S'il y a un pays en Afrique qui a fait de grands sacrifices pour la normalisation de ses rapports avec l'Algérie et avec la Mauritanie, c'est bien le Maroc. Eh bien, je ne tiens pas à ce que ces efforts soient vains, à ce que tout cela s'écroule à cause du Sahara. Nous reprenons notre liberté d'action pour ce qui est de la libération de ce territoire.
Monsieur Abdelrahman Youssoufi, vous m'expliquiez que vous avez, vous aussi, souffert de votre amitié avec l'Algérie. Alors, est-ce que l'on pourrait en savoir plus ?
Nous avons tous travaillé dans la perspective maghrébine. Nous avons fait jouer la solidarité maghrébine. Moi, je vais vous le dire maintenant publiquement. Je faisais partie de la direction de la résistance marocaine et j'étais en contact avec les dirigeants de la résistance algérienne et nous avons participé ensemble à la décision qui a fait que le 20 août 1955 a été ce qu'il a été. C'était une idée commune algéro-marocaine de décider d'organiser des manifestations en Algérie et au Maroc en solidarité avec les Marocains dans leur résistance et dans leur protestation contre le limogeage de Mohamed V. Eh bien, nous avons aussi constitué une armée de libération commune. L'armement était commun. On s'est partagé 2/3 pour l'Algérie, 1/3 pour le Maroc. Et c'est comme cela que ça a marché. Tellement nous étions une véritable famille. Nous avons même... nous souffrir de notre amitié, de notre sympathie pour l'Algérie dans le temps.
التاريخ يحكم علينا ولا يحكم ضدنا. هذا موقف أخذنا. سيأتي اليوم الذي نلتقي فيه مع الشعب المغربي. فلهذا ما نسبش أبدا المستقبل.
Monsieur Ben Bella, est-ce que vous vous sentez plus marocain qu'algérien ou alors le contraire?
Je suis d'origine marocaine, mais moi je suis algérien. Hein. Oui. Je suis fier d'avoir un père et une mère qui sont marocains.
C'est pour ça que je vous pose la question. Êtes-vous venu en 62 avec une sensibilité afin de régler tous les propos divergents entre les deux pays ?
Tout à fait. Vraiment, tout à fait. Mais en les discutant. Oui. Par la discussion. Nous n'avions pas. Écoutez, on dit que c'est le Tindouf. Comment voulez-vous que ce soit nous ? Je n'avais pas un avion, moi. Pas un char.
Et on a été attaqué en plein Sahara, alors que notre armée est une armée de guérilla, de montagne, de forêt, etc. Nous, nous avons combattu les Français, pas dans le Sahara, je vous dis franchement. Nous avons combattu là où la lutte des partisans était possible, c'est-à-dire là où il y a des forêts, là où il y a des montagnes, là, pas dans le Sahara, où il y a une vision totale, où avec, vous savez, quand vous n'avez pas de couverture aérienne, vous êtes battu. Nous n'avions pas un avion, comment? C'est Hassan II qui a provoqué l'affaire de Tindouf. Il l'a provoqué dans un point où il savait que nous n'avions pas de réponse, c'est-à-dire dans le Sahara, nous avions une armée de guérilla, nous n'avions pas un avion, un char, nous n'avions pas.
قوات مسلحة قوات مراكشية مسلحة تتحرك في الحدود واحتلت 2 مواقع بير البيضاء وتينجور في 50 كيلومتر داخل الجزائر.
Vous sentiez à l'époque trahi par Hassan II?
Oui. Oui, trahi parce que Boumdine est venu me dire, Ahmed, ils vont rentrer à Tindouf. Nous n'avons pas une armée pour nous battre là-bas, nous n'avons rien. Et je dois te dire, on va perdre Tindouf. Et je me rappelle, nous avons décidé pour faire face de demander une couverture aérienne, parce que nous n'avions pas un avion. En Nasser, il nous l'a envoyé dans les 48 heures, des bombardiers lourds. Et j'ai fait un discours dans lequel j'ai dit Hagrouna.
هاجرونا لأن حسبوا الدبابات اللي عندهم وإحنا ما عندناش.
J'ai dit, partez comme ça, je n'ai rien, moi j'ai pas un avion. Et 250 000 Algériens sont partis vers les frontières, dont une bonne partie est morte de soif, etc. Ils sont allés pour combattre, pour défendre leur pays. Et ça, c'est une erreur de Hassan, je dis franchement. Lorsqu'il a dit, non, il a dit ceci, c'est que nous pouvions aller jusqu'à Oran.
Oui.
Il ne savait pas qu'il allait blesser les Algériens. Il ne faut pas blesser les Algériens. C'est dangereux de blesser les Algériens. C'est ce que j'appelais la Hagra. Non, ces Algériens venaient de faire sortir une armée qui comptait 850 000 soldats français, voilà. Et qui ont fait partie de 2 500 000 colons. Donc une armée qui se bat comme ça, qui gagne, on n'a pas le droit, parce qu'on a des avions, parce qu'on a des dirigeants, on peut arriver jusqu'à Oran. Oui, mais pour sortir d'Oran, j'aurais bien voulu savoir comment il fait. Mm-hmm. Mais il nous a blessés, voilà.
C'était la première partie de cette émission consacrée au Maroc, aux relations algéro-marocaines. Demain, il sera question des questions suivantes. La question sahraoui a-t-elle été instrumentalisée? Si oui, par qui et dans quel but? Quelles ont été les différentes tractations menées de part et d'autre? Quels ont été les principaux rendez-vous manqués? Par qui ont-ils été organisés? Quelles ont été les rencontres secrètes entre qui et qui? Dans quelle mesure la diplomatie dite parallèle a-t-elle été utilisée? Histoire en marche spéciale Maroc, un rendez-vous à ne pas manquer demain à partir de 18h et ce jusqu'à 19h. L'émission a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Samiha Ali. Au plaisir de vous retrouver demain. Merci de votre attention, au revoir.